C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode avec un invité de très haut niveau. Il est à la tête du premier média de divertissement de France. On va parler de ça tout à l'heure. Il a commencé il y a plus de 15 ans avec un simple caméscope et il pèse aujourd'hui en millions sur les plateformes social media. Avec ses associés, ils ont nettement contribué à l'explosion de la culture rap en France. Il se dit même que les murs de son bureau croulent sous les disques d'or des top artistes du rap français. Il va nous expliquer si c'est vrai. Je suis très heureux d'accueillir Amadou Ba, le boss de Bouscapé. Salut Amad, bienvenue dans le Super Daily.
Salut Thibaut. Quelle présentation.
Ouais, c'est trop. Non, c'est bien.
Non,
c'est
cool.
Ça, c'est ça. Attendez, un mania des médias aujourd'hui avec nous dans le Super Daily. Ça me fait très très plaisir de t'accueillir. Ouais. Je disais en off que je t'avais entendu dans le podcast featuring de Driver, que je recommande chaudement, et que c'était une super interview. Je me suis dit, je veux à tout prix parler social media avec les équipes de Bouscapé, avec Amad. Donc, merci d'être là, c'est très sympa.
Merci pour l'invitation.
Voilà, et je précise qu'il est ici à Lyon, donc c'est, voilà, on est encore plus flattés. Amad, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Bouscapé? Parce que j'imagine qu'il peut y avoir encore des gens qui ne savent pas ce que c'est Bouscapé.
Bouscapé, c'est un média qui, de base, traite du rap français. On a été créé en 2005 et on s'est diversifié depuis 2011. On parle un peu de toutes les thématiques qui touchent les jeunes. Plus, on reste avec l'ADN rap, mais on a élargi aujourd'hui le champ du site à la pop culture. Donc, on s'intéresse au cinéma, lifestyle, sport, etc.
Ouais.
Et Bouscapé, c'est 3 millions de visites sur le site. C'est 2 millions d'abonnés sur Instagram. 700 000 abonnés sur Facebook, 600 000 sur Twitter.
Bah, j'ai fait les comptes, hein, Amad. Bouscapé, ouais, c'est ça. 17 millions de vues sur YouTube aussi.
C'est
hein,
ça, c'est 17 ça. Millions de vues sur YouTube.
C'est énorme. 2 millions d'abonnés sur Instagram. Voilà, pour ceux qui essayent de swiper, eux, ça fait un moment que ça swipe hein, du côté de Bouscapé. Si j'ai bien compté, hein, ça fait de Bouscapé le premier média de divertissement de France. Hein. Vous êtes aujourd'hui des géants, comme Combini, comme Brut. C'est ouf.
Comme Combini, comme Brut.
Ouais, c'est dingue.
Est-ce que... indépendant.
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu avais ça en tête quand vous avez lancé Bouscapé il y a 15 ans?
Non, comme j'explique souvent, nous, quand on a créé le média, on n'avait pas de plan prédéfini. C'était vraiment une passion entre trois mecs qui ont monté un média et qui voulaient juste diffuser les vidéos qu'on montait et qu'on réalisait. Et de fil en aiguille, on a vu qu'on pouvait en faire quelque chose et on a commencé à monter le média et puis on en est là où on en est aujourd'hui.
Ouais, j'aimerais bien que tu racontes un peu l'aventure, les débuts de Bouscapé, parce que cette histoire, elle est ouf. Hein, c'est une success story presque à l'américaine. L'aventure de Bouscapé, ça commence, tu m'arrêtes hein, si je dis une connerie, il y a 15 ans, à Évry-Courcouronnes, 91. Et à l'époque, bah, c'est du fait maison, 100% fait maison. Vous racontez les coulisses des rappeurs de la région. Et puis, bah voilà, petit à petit, ça explose. Si tu peux nous raconter un peu les débuts.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Nous, on a commencé en 2005, donc avec mon ami Fif, avec qui j'ai grandi. On se connaît, ça fait plus de 15 ans. Nos mères se connaissent. On a grandi ensemble. Et en gros, on partageait tous les deux la même passion pour tout ce qui est vidéo et tout ce qui est rap. Donc, on a décidé d'allier un peu ces deux passions et d'en faire des vidéos. En fait, nous, on avait une frustration, c'est que les rappeurs qu'on écoutait le plus ne passaient pas en radio, etc. Ils n'avaient pas la visibilité qu'ils méritaient selon nous. Du coup, on a décidé un peu de réparer le truc, entre guillemets. Avec notre caméra, on est parti à la rencontre de ces rappeurs-là et on a filmé un peu les inside. Donc, on allait filmer des contenus inédits dans leur quartier qu'on diffusait ensuite sur notre plateforme qui était sur le site internet à l'époque. On était un pur player. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Et là, on est au début quasiment du web. Enfin, là, tu me parles de trucs.
YouTube, ça n'existait même pas, je crois, à l'époque. Nous, on avait notre propre player que notre troisième associé, donc Alexis, qui est le webmaster, avait développé. Et du coup, on hébergeait toutes les vidéos chez nous.
Ouais, donc il y a un Tekos quand même dans la bande.
Il y a un Tekos.
Ah ouais, quand même. Il faut
sans les Tekos, on n'y arrive pas.
Et moi, ce que je trouve fou dans cette histoire, c'est que le rap, c'est quand même aussi une culture de l'ego trip. Et puis aussi, à l'âge que vous avez, quand vous avez monté Bouscapé, le début du projet, tu pourrais imaginer que votre kiff, ça soit plutôt d'être devant la caméra, tu vois, de danser, de chanter, je sais pas, d'être visible en tout cas. Et vous avez un autre délire, c'est celui de sortir une caméra et de documenter. Je trouve ça assez fou. cette idée, tu vois, de point de départ quand on est jeune comme ça, est-ce que toi, tu as toujours cultivé une sorte de plaisir pour le contenu et puis après, derrière, pour les audiences? Parce que quand tu produis un truc, c'est cool quand les gens le regardent. Est-ce que ça, c'était vraiment le moteur au départ ou c'était, comment ça s'est fait en fait?
J'ai toujours été passionné, moi, par l'image, la vidéo. Donc, très jeune, moi, je savais déjà ce que je voulais faire. Je voulais être réalisateur.
Okay.
J'ai réalisé des films, j'ai fait une fac de ciné. Bon, je ne suis pas resté trop longtemps là-bas, mais en tout cas, c'était mon ambition. Donc, je savais depuis le début que je voulais être dans l'image. Et rapper, non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. FIFA, un petit peu, je crois, elle avait rappé en cinquième le temps de la cantine, je crois.
Okay.
Mais non, ça a toujours été le fait de créer du contenu. Ça m'a toujours passionné, en fait. Le montage, tout ça, découper, raconter des histoires en images, ça a toujours été la chose qu'on a voulu faire, en fait.
Ouais, donc toi, tu comprends, là, quand il y a des jeunes, là, qui déboulent et qui ont envie, justement, de produire des trucs, pas forcément eux d'être face caméra, mais juste de sortir le cam, faire des images, etc. Ça, c'est un truc, j'imagine, ça te parle, quoi.
Ah ouais, mais carrément. Ouais. Carrément. Et aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Nous, à l'époque, quand on a eu notre caméscope, c'était, je sais pas si tu te souviens, il y avait le clip Pour Cieux de la Mafia Quinfri qui était sorti, ouais, qui avait été réalisé par le collectif Courtrage Mé. Nous, quand on a vu ça, on s'était pris une gifle. On s'est dit, attends, les mecs, ils arrivent à le faire avec un caméscope. Le prix, enfin, ça coûtait pas très cher à l'époque. Et c'est là qu'on a commencé, nous aussi, à acheter notre caméscope et à faire ce qu'on fait aujourd'hui.
Ouais.
On a commencé avec un tout petit caméscope, hein. Nombre de vidéos qu'on a filmées avec ça, c'est incroyable.
Est-ce que tu peux nous expliquer, alors moi je connais l'histoire, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça s'appelle Bouscapé, ce site? C'est quoi le délire? Bah, même ici en interne, il y avait des discussions, mais pourquoi ils ont appelé ça Bouscapé, etc. Maintenant, c'est inscrit, tu vois, ça fait presque partie du patrimoine médiatique français, mais c'était pas une évidence au départ. C'est quoi le...
Bouscapé, c'est par rapport à un personnage d'un film qui s'appelle La Cité de Dieu. C'est un film qui nous avait beaucoup marqué, de Fernando Méréz, un film brésilien qui se passait un peu dans les favelas, dans le ghetto brésilien. Et t'avais un jeune qui habitait dans ces favelas-là qui s'appelait Bouscapé. Et lui, pour s'évader un peu du truc, lui, ce qu'il voulait, c'est être journaliste. Et il a réussi à connecter un journal local, etc. Et c'était le seul qui avait accès aux favelas. Donc lui, avec son appareil photo, il allait dans son quartier, il prenait les photos, etc. Et les ramenait aux journaux locaux qui pouvaient les diffuser. Et on savait un peu ce qui se passait dans ces zones de non-droit. Et nous, l'idée, c'était un peu ça. C'était de se dire que les rappeurs, on a les mêmes codes. Nous, ici, on vient des quartiers comme eux, des quartiers populaires. Du coup, on allait jusqu'à ces rappeurs-là. On les filmait un peu dans leur quotidien. On filmait un peu leur élaboration, enfin, comment ils élaboraient leurs projets, etc. Et après, l'idée, c'était de le diffuser. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé le nom Bouscapé. Nous, on l'a écrit plus, un peu à notre manière. Et puis, ça vient de
en plus, ça sonne bien.
Ça sonne très
bien. C'est resté. Petite question. Au départ, Bouscapé, c'est un site internet.
C'est ça.
On en a parlé. Après, c'est logiquement devenu une chaîne YouTube, hein, avec l'émergence de YouTube. Et aujourd'hui, c'est vraiment un média cross-plateforme, hein, comme on dit, donc qui est sur plein de plateformes. Et notamment, bon, on a parlé des réseaux sociaux, notamment sur Instagram en ce moment où vous cartonnez tout. Comment est-ce que vous avez géré ce virage vers le contenu natif, tu vois?
En fait, nous, on était très attachés au site. Donc, ça veut dire que même quand on avait le Facebook, on s'en servait pour renvoyer du trafic, ouais, vers le site parce qu'on avait notre player où on mettait nos billboards, etc. Ça nous rapportait de l'argent parce qu'on vendait de la pub. Vraiment, on pensait vraiment site. Et à partir de 2015-2016, on travaillait avec de nouvelles personnes, notamment Florian Le Cerf qui nous a rejoint sur tout ce qui est management stratégique. On a décidé un peu de changer la stratégie du média et plutôt de penser en termes de média global en se disant que même si on touchait à peu près les mêmes publics, les personnes n'avaient pas forcément tous les mêmes habitudes. Il y a des gens qui nous connaissent que par le prisme de YouTube, d'autres par le site, etc. Et après, c'est là qu'on a commencé à développer tous les autres réseaux. Même si on avait déjà la chaîne YouTube, on misait pas là-dessus à fond. Et là, on a décidé vraiment de développer chaque réseau social comme si c'était un média à part entière, en gardant une certaine homogénéité un peu partout. Et c'est comme ça qu'on a réussi à monter. Et aujourd'hui, on n'a jamais été aussi fort que depuis qu'on a réfléchir en termes de marque globale plutôt que de penser qu'en termes de site.
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, juste sur cet angle contenu, donc il y a le site, hein, il est encore puissant, tu nous as donné les chiffres tout à l'heure, et puis après, YouTube, évidemment, qui est la locomotive, on va dire, et le réservoir à contenu, et puis après, vous avez cette stratégie cross-plateforme, donc vraiment Instagram, encore Facebook. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous adaptez, vous créez des concepts d'émissions, on va en parler après, puis ensuite que vous diffusez, vous réadaptez au format, comment ça
dépend, par exemple, sur YouTube. Enfin, il y a des vidéos qu'on poste sur YouTube, d'autres contenus qu'on poste uniquement sur Instagram. Ça dépend. Je saurais pas dire exactement quelle est la recette. C'est à force avec l'expérience, on sent un peu les contenus qui vont être pour telle ou telle plateforme.
Ouais.
Et aujourd'hui sur YouTube, c'est vraiment on privilégie plutôt les contenus longs. Tu vois, là, notamment récemment, on a sorti un documentaire sur Attic à l'occasion de la sortie de son projet. C'est un docu qui fait, je crois, 36 minutes. voilà, qu'on a posté sur YouTube. Nous, chez nous, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui viennent sur YouTube sont friands des contenus super longs. Là où...
L'algorithme aussi, d'ailleurs.
L'algorithme aussi.
Ouais.
Et du coup, la vidéo, elle a cartonné. On est déjà presque à 400 000 vues, je crois, en moins d'une semaine ou en une semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, on a aussi des contenus courts qu'on poste et sur Instagram et sur YouTube.
Ouais, donc vous avez adapté quand même les formats en fonction de la plateforme.
Et ça dépend aussi de la personne.
Ouais.
En gros, selon l'invité, on sait que ça va être beaucoup plus fort sur Instagram ou beaucoup plus fort sur YouTube ou fort sur les deux et on s'adapte par rapport à ça.
Ok. Aujourd'hui, Bouscapé, je le disais, c'est le média de référence dans l'univers du rap. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et la culture urbaine. Moi, j'ai une question un peu vue d'ensemble comme ça. Comment on fait pour développer un média qui rassemble dans un univers qui est finalement assez clivant et assez clivé et puis au milieu des réseaux sociaux, social media, où c'est un univers où, on le sait, les algorithmes favorisent les conversations un peu houleuse ou un peu musclée. Comment est-ce qu'on arrive à faire ? Est-ce que Bouscapé, c'est votre force, ça ? Vous avez réussi à créer un média qui est rassembleur, tu vois ? Et c'est quoi la recette maison pour ça ?
Bah déjà, je crois que le premier truc, c'est qu'on est arrivé au bon moment. Clairement, comme tu disais au départ, on est arrivé vraiment au tout début d'Internet, avant la création de YouTube, etc. Ça, je pense que c'est un avantage aujourd'hui qui est là. Et l'autre force, je pense que la chose à laquelle on est énormément attaché, c'est l'identité. Aujourd'hui, Bouscapé, quand tu dis Bouscapé, ça véhicule certaines valeurs, il y a une authenticité, en gros, qui se dégage de tout ce qu'on fait, et je pense que c'est la clé aujourd'hui. Quand les marques viennent bosser avec nous, ils viennent parce qu'ils savent qu'on a une certaine expertise dans ce domaine, qu'on parle à une certaine population, qu'on maîtrise en tout cas l'aspect urbain, même si j'aime pas trop le mot urbain, bon, c'est comme ça que tout le monde l'appelle, donc on a une certaine expertise là-dessus. Et ça, c'est en créant des contenus. Et c'est parce que aussi, bon, bah, les fondateurs, moi qui gère un peu tout ce qui est édito chez nous, bah, je viens de là. Donc, je sais, on a une certaine expertise, on a un certain, comment dire, on a une expérience. Ça fait 15 ans qu'on fait ça. Et donc, on sait ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Et voilà, tout simplement.
Ouais. Vous savez à quel moment ça peut déborder, vous savez être dans les clous. Ok, vous avez aussi un média qui est important, qui a pesé hein, clairement dans l'explosion d'un certain nombre de talents du rap français. Il n'y a pas de doute là-dessus, il y a eu des émergences grâce à Bouscapé. Et sur le sujet de l'émergence, justement, hein, c'est quoi aujourd'hui pour toi qui en as vu défiler là quand même, hein, c'est quoi aujourd'hui les ingrédients qui vous donnent, vous, Bouscapé, envie de miser sur un talent en émergence ? Est-ce que les réseaux sociaux, justement, ils pèsent dans la prise de décision ? À quel moment vous décidez de dire, tiens, lui, on peut mettre un coup de focus, on a le média pour maintenant?
Bah nous, en fait, ce qui prime avant toute chose quand on suit un artiste, c'est la musique. Donc déjà, qu'elle nous parle ou qu'elle ne nous parle pas, on regarde s'il se passe quelque chose autour de la musique de l'artiste. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que la personne a un projet sur la longueur? C'est pas un one shot, tu vois? C'est tout ce genre de choses-là qu'on regarde et qu'on scrute. Après, c'est vrai qu'on regarde ses réseaux sociaux, qu'on regarde comment ça évolue, etc. Et on a différents contenus aujourd'hui qui sont adaptés, entre guillemets, à la puissance d'un artiste, qui suit un peu le parcours d'un artiste. Donc, on a des contenus pour les artistes en développement, d'autres pour les artistes un peu middle et d'autres pour vraiment les gros artistes. Et selon ce qu'on a, on essaie de s'adapter par rapport à chaque artiste et on fait un accompagnement là-dessus. Donc, aujourd'hui, bon, bah, il y a des artistes comme la Section d'Assaut qui ont explosé, notamment chez nous, ou des gens comme Mister You.
Ouais, clairement.
On reste branché.
Mister You avec une histoire folle, là, si vous voulez. Si vous la connaissez pas, allez suivre à nouveau cet épisode de Driver featuring. Bouscapé aujourd'hui, c'est un média qui propose une quinzaine de formats différents, à peu près, hein, c'est ça?
C'est ça, 15 formats.
Voilà, il y a Dans la Gova, Un son en une heure, je vais pas tous les faire, hein, Le Journal du Rap, évidemment. Votre ligne éditoriale, c'est médias d'influence urbaine. Donc tu vois, il y a le mot urbain, c'est pas ça. Moi, c'est marqué en haut de votre chaîne.
Ouais, on va le changer.
Il aime pas. Il aime pas. Donc il y a du son, mais vous avez décidé petit à petit d'élargir aussi la ligne éditoriale. Hein. Au-delà de la musique, il y a de la SAP, il y a du foot, il y a des jeux vidéo aussi.
C'est ça.
Est-ce que vous fixez aujourd'hui des limites dans la ligne éditoriale ? Comment ça marche ? À quel moment tu décides de dire, autre question, est-ce que demain on peut imaginer qu'on parle de tech, qu'on parle de politique sur Bouscapé ou alors non, ça restera sur une culture un peu pop comme ça. C'est quoi la limite, en fait?
Nous, on veut quand même rester sur l'axe pop. Donc, le côté politique, je sais que c'est pas un truc dans lequel on a spécialement envie de se mettre. Après, il y a des sujets sociétaux qui nous touchent. Donc, quand il y a eu les violences policières, notamment, on a pris la parole, etc. Voilà, sur des choses comme ça, on espère quand même avoir un côté sociétal et le développer. Après,
tu veux pas recevoir Emmanuel Macron là dans ton nouveau bureau là ?
Pourquoi pas ?
Ah. Il l'a fait. Hein.
Après, nous, l'idée, c'est vraiment de se dire, on n'a pas forcément de limites. C'est juste qu'il faut que ça s'inscrive un peu dans notre ADN. tant que ça s'inscrit dans notre ADN, ça le fait. Tu vois, quand on fait une émission autour du lifestyle avec Sarah, qui est présentée par Sarah chez nous, on ne le fait pas comme tu vas le trouver chez Camino ou chez d'autres qui sont vraiment des experts, en tout cas de la SAP. Nous, on parle de SAP à des gens qui ont l'habitude d'écouter du rap français. C'est un peu ça le truc. Quand on fait une émission de foot, Soyons Foot, avec Colombien qui reçoit à chaque fois un invité et qui ont des défis ensemble, pareil, on le fait sur l'axe du rap. C'est, à chaque fois, on essaye de rentrer un peu dans ces domaines-là, mais tout en gardant notre ADN et notre patte bouscapée, la patte rap. Quoi.
Ouais. Aujourd'hui, dans le process de créa, vous produisez, on le voit, vous produisez beaucoup à l'attention d'un format qui est plutôt horizontal, hein, c'est peut-être historique, tu vois, YouTube, etc. J'ai une question vraiment autour du contenu 9/16e. Comment ça se marche aujourd'hui? C'est quoi, toi, qu'est-ce que tu penses du format 9/16e? Et puis une question un peu par ricochet, c'est pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas encore aussi puissant là sur TikTok? Vous devriez tout cartonner. Est-ce que vous avez raté un wagon? Est-ce que vous allez y venir ou est-ce que vous faites l'impasse sur...
Bah, TikTok, c'est un peu spécial. C'est un nouveau réseau, en vrai. Et la manière dont tu appréhends TikTok, ce n'est pas de la même manière que tu appréhends les autres réseaux. Même si chacun sont différents, il y a quand même des connexions qui sont assez évidentes. Sur TikTok, c'est différent. Donc, on a beaucoup tâtonné parce qu'on ne savait pas comment arriver là-dessus. On cherchait notre modèle. Donc, on a testé, etc. On a regardé pas mal de trucs. On a testé notamment sur les réels qu'on a sur Instagram, qui sont une déclinaison des TikTok. On a trouvé notre formule. On sait comment on va arriver sur TikTok. On a déjà le compte qui est déjà...
J'ai vu.
Avec aucun abonné. On ne l'a pas encore activé parce qu'on a une stratégie. On sait comment on va arriver là-dessus, mais ça va être incessamment sous peu.
D'accord. Parce que là, j'imagine l'opportunité, elle est énorme. Là, quand parle de culture urbaine, sur
Bien
votre
sûr.
Public, c'est
costaud. Bien sûr, c'est énorme. Après, c'est un public qui est beaucoup plus jeune que le public qui vient sur Bouscapé. Enfin, en tout cas, notre cœur de cible qui sont les 18-24, même si on touche les 15-35. Le cœur de cible vraiment de Bouscapé, c'est 18-24. Et la manière de s'adresser aux gens sur TikTok, je crois qu'elle est différente.
Ouais.
Elle est différente, il faut bien l'appréhender. Et voilà, quand on fait les choses, on essaie de les faire bien à fond et de ne pas le faire le truc à moitié. Donc, c'est ça qu'on a mis un peu plus de temps.
Avec un gros challenge aussi sur le format, tu vois. C'est-à-dire, on le sait, nous, c'est la même chose avec les marques qu'on accompagne. Il y a une culture du format horizontal qui après est devenu un format carré. Et maintenant, boum, il faut raconter dans un format 9/16e en 15-30 secondes. Est-ce que ça, là-dessus, comment vous avez fait la gymnastique? Si tu me dis que vous y êtes, là, vous êtes prêts?
Là, en fait, on a déjà commencé. Donc, c'est... En tout cas, en Reels, sur Instagram.
C'est des bons résultats, c'est bien.
On a des très bons résultats. On fait en moyenne 500 à 600 000 vues par vidéo.
Ouais, ça paye Reels.
Franchement, c'est cool. Ouais. Et du coup, c'est Sarah qui fait la voix off, qui monte et qui écrit. En gros, on prend une grosse info. Enfin, on essaie de traiter 3 à 4 grosses infos dans la semaine. Et elle traite en 30 secondes. Et on le met sur Reels. Et ça, franchement, ça cartonne. On voulait déjà tester sur cette plateforme-là où on sait qu'on est déjà installé. Et là, on va décliner ça sur TikTok avec d'autres contenus qui vont arriver.
Ok, bah on a de voir ça. Aujourd'hui, Bouscapé, c'est combien de personnes? Je disais, on en parlait en off, là, nouveau bureau. J'ai vu une vidéo là, dans laquelle tu présentes tes nouveaux locaux. Ça a l'air d'être super beau.
Ils ne sont pas plus beaux que les vôtres.
T'es gentil. Aujourd'hui, c'est combien de personnes, Bouscapé?
Bouscapé, on est une vingtaine en tout à bosser.
Okay.
Donc, comme tu le disais, on a une équipe vidéo qui est internalisée, donc on réalise tout en interne.
Ouais, ça, c'est la culture maison. Hein.
C'est la culture maison. Après, on a une équipe de chefs de projet, de commerciaux qui s'occupent de faire entrer des deals.
Et il faut bien.
Il faut bien.
Ouais.
On a un social media manager qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui fait du très, très bon boulot. Office manager qui s'occupe. Enfin, vraiment, on a une belle équipe qui est bien structurée. Et on a une vingtaine de personnes.
Ouais. Et là-dessus, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as fait ou vous avez fait émerger des personnages au milieu de cette équipe. Hein. Tu parlais de Sarah, qui a cette émission qui s'appelle Sapécom. Et puis, il y a des animateurs comme Thomas Guigan, je crois, c'est ça Guigan, qui présente le journal du rap. C'est des personnages qui ont déboulé comme ça au milieu de Bouscapé. Je trouve ça très intéressant parce que finalement, cette démarche de mettre des visages sur un média, c'est pas un truc qu'on trouve ailleurs. C'est recette Bouscapé. Je trouve. À quoi ça sert de mettre des visages sur un média, en fait?
Nous, quand on a commencé, on avait plutôt tendance à se cacher, pas trop à se montrer, etc. Je pense que c'était de la timidité.
Un peu fif, quand même.
Oui, mais même fif, au tout début, il se montrait pas trop dans les interviews, on entendait plus sa voix. Et petit à petit, on a commencé à se montrer. Et pendant très longtemps, en fait, fif a été le visage de Bouscapé. Et 2015-2016, histoire de devenir un peu plus fort aussi, parce qu'on avait grandi, on avait vieilli. On s'est dit, ça serait bien d'avoir de nouveaux visages, apporter une nouvelle dynamique. Et c'est là qu'on a décidé d'avoir différents visages qui incarnent différentes verticales. On a jamais été aussi fort que depuis qu'on a été, qu'on a plusieurs visages qui ont émergé comme ça.
Ouais. À quoi ça sert en fait? C'est une attente de ton audience, ça?
Bah, en fait, moi, je suis très sensible à tout ce qui est personal branding. Donc, j'ai beaucoup suivi, en tout cas, tout ce qui se dit là-dessus. J'ai lu beaucoup de choses dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, la force, en fait, nous, on le voit. Sur les contenus incarnés et les contenus désincarnés, on voit à quel point il y a une grosse différence, en tout cas. Dès qu'un contenu est incarné par une personne, qu'elle arrive à mettre en avant sa personnalité dans ce contenu-là, ben, tout de suite, ça explose.
Alors là, moi, j'ai une question pour moi, une question de patron d'agence. Ouais. Nous, on a un sujet ici, tu vois, pareil chez Supernatif. Cette émission, d'habitude, je la fais avec Camille et Adjan, qui deviennent des personnages, qui sont des personnages, qui sont là au cœur de l'agence et qui deviennent visibles. Comment toi, tu gères ça en tant que patron? Parce que j'ai vu Sarah, elle, son compte Insta, c'est Sarah Bouscapé.
C'est ça.
Comment tu gères ça? Ça fait partie du deal que vous avez avec eux. Comment ça marche? Est-ce que tu vas les caster parce qu'ils présentent? Bien, tu vois, est-ce que tu vas les caster parce que tu sais que là-dessus, ils vont apporter? Est-ce que ça fait partie du... C'est leur contrat? Bah, question de vraiment...
Alors, quand on a décidé de lancer les émissions, au tout début, on n'avait pas forcément d'idée de... par exemple, si je prends l'exemple de Nicole Colombien qui est arrivée chez nous, on s'est vu en entretien, on a accroché, mais je ne savais pas quoi lui faire faire. Mais le feeling est bien passé, je me suis dit... je pense qu'il faut qu'on bosse ensemble. Du coup, on a gardé le contact. Et quand on a décidé de créer l'émission Wesh qui s'intéresse aux nouveaux talents, on l'a testé. On fait beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait beaucoup de pilotes. Hein. On jette à la poubelle, on fait des choses.
Ah ouais, ok.
Vraiment, on fait pas mal de pilotes avant de sortir les émissions, ça parce que c'est important, je pense.
Ah, c'est marrant, ça, parce que nous, ici, on a une culture de... Il n'y a pas d'épisode zéro.
Ok.
C'est l'autre culture, tu vois, c'est en balance. Et puis, petit à petit, on avance. Ouais. Mais vous êtes un média sérieux, quoi. La notre différence.
Non, mais après, je pense que c'est vraiment pour mettre en place les bases. Même le premier épisode, je pense qu'il ne sera pas parfait. Mais en tout cas, sur le JDR, par exemple, on avait fait deux pilotes avant de le lancer.
Ok.
Parce qu'on n'était pas satisfait de...
Et là, tu fais quoi? Et tu fais quoi une fois que... Donc, attends, ça m'intéresse. Vous préparez... Donc, au départ, ça brainstorm de taré pour trouver le format. Hein.
C'est ça.
Donc là, vous mettez combien autour d'une table et qu'est-ce qui se passe, en fait?
Bah, en général, il y a toujours une personne qui a une idée. Ça part d'une personne. L'impulsion, elle part d'une seule personne. Après, on se fait une réunion. On se dit, ah, putain, c'est cool, etc. On se pose et on essaie d'en discuter, on discute, ça balance des idées, etc. Et on arrive à créer le contenu. Et aujourd'hui, je ne saurais même pas te dire à chaque fois que personne ne peut se revendiquer la paternité de tel ou tel contenu parce qu'au final, c'est vraiment un travail d'équipe et chacun amène son truc et on arrive à créer les contenus qui sont aujourd'hui sur Bouscapé et qui fonctionnent. Et,
donc, vous draftez une idée.
C'est ça.
Et puis après, vous faites un premier pilote. Et après, vous faites quoi? Vous le mettez au test chez vous?
En fait, on fait un premier pilote dans les conditions du réel.
Ouais.
On fait comme si on devait le sortir. Donc, c'est ce qu'on fait. On fait tout. On traite le truc comme si on devait le sortir. Et après, on recheck et on voit. Et on se dit, bah tiens, le ton, c'est pas bien. Il faudrait changer tel.
Et là, c'est la même équipe qui regarde. C'est la même équipe qui a eu l'idée? Ouais. Ou alors,
En général, c'est moi qui fixe un peu le ton de l'émission. Ouais. Quoi. Ça veut dire que même si c'est des discussions entre nous, chacun donne son avis, je tranche toujours. Il faut toujours une personne qui tranche. C'est moi qui dis non à chaque fois quand ça va pas.
Poubelle, on refait.
Poubelle, on refait. Mais voilà, enfin, je veux dire, on a la chance d'être sur un média plutôt cool. On est sur Internet. Nous, on n'a pas de patron. On n'a pas de pression qui vienne d'ailleurs. On n'est pas à la télévision. On a des objectifs d'audience monstrueux. Donc, oui, on a des objectifs d'audience. Mais je veux dire, on laisse le temps à chaque émission de se développer. C'est-à-dire qu'il y a des émissions qu'on a lancées qui n'ont pas très bien fonctionné. Eh ben, on réajuste, tu vois. On
réajuste
l'émission, etc. Et puis, on voit.
À partir de combien de temps tu sais ça? Si c'est bien parti ou pas? Maintenant que tu as 15 ans d'expérience là, sur tes formats, à travailler des formats comme ça, il faut quoi? Il faut 2-3 émissions avant de se lancer?
En général, la première émission, elle cartonne. Toujours, okay. Parce qu'il y a le truc de la nouveauté. Donc, les gens sont curieux, ils viennent voir, etc. C'est au bout du deuxième, troisième, quatrième épisode qu'on essaie de voir si jamais au niveau des audiences, on se maintient. C'est pas qu'une histoire d'audience, c'est aussi une histoire de retour. Qu'est-ce que les gens pensent de l'émission? Est-ce que les retours sont positifs ou pas? Est-ce que ça leur parle comme contenu? Là, on avait lancé l'émission donc Soyons Foot en septembre. C'était un contenu un peu focus sur l'actualité. On a vu que ça fonctionnait pas. On tournait autour des 20 000, 30 000 vues. Bon, au bout de 6 ou 7 numéros, on s'est posé, on s'est dit, bon, les gars, ça marche pas, venez, on change. On a rebrandé le truc, on a fait intervenir un invité, on a pu jouer sur la corde fun et aujourd'hui, l'émission, elle tourne autour des 200 000 vues.
Ouais. Est-ce que là, quand tu es dans cet exercice comme ça de réécriture, etc., est-ce que tu utilises les insights de ta communauté, c'est-à-dire ce qui s'est dit dans les commentaires? Est-ce que tu leur poses même la question en social media ou pas? Genre, qu'est-ce qu'on ferait différemment?
Ah oui, bien sûr, ça fait partie de ça. C'est super important. Ouais. Nous, les commentaires, on passe notre vie à les regarder. Ouais. Après, ils sont pas tous pertinents, mais quand les commentaires sont constructifs et qui t'aident à avancer, bien sûr qu'on les prend en compte. Vraiment, toujours. Okay. Autant les commentaires des gens de l'équipe, parce que quand on fait un contenu, tout le monde le regarde chez nous. La personne qui a pas une. Qui a pas. Enfin, même la secrétaire, elle va venir, elle va regarder le truc, elle va donner son avis aussi. Tu vois, tous les avis comptent au final. Et les avis, en tout cas, de la communauté comptent énormément. On pose souvent des questions, on interagit pas mal avec la communauté. Ouais.
Donc, une fois que tu as ton idée de programme, avant de faire ton épisode test, là, tu trouves quelqu'un pour l'incarner. Tu te dis, OK, là, on a cette idée-là, c'est ça, hein, si j'ai bien compris.
En général, ça, où ça vient quand on a le début d'idée, on sait quelle est la personne qui va l'incarner.
OK. Okay.
Donc, on sait plus ou moins et on essaye après de voir avec cette personne-là justement parce qu'il faut qu'elle se sente à l'aise en tout cas dans son programme.
Par exemple, je te le dis, première réflexion quand je regarde la première fois le journal du rap qui déboule sur Bouscapé, ouais. Je me dis, tain, c'est marrant qu'il soit allé chercher ce garçon, Thomas, là, parce qu'il a une tête de premier de la classe et c'est en fait, c'est cool que ça soit lui.
Ouais.
Parce qu'il offre un contrepoids et tout, c'est intéressant. J'aimerais bien que tu m'expliques. Ouais, effectivement.
C'est qu'en gros, moi j'avais l'idée. J'avais l'idée de créer un journal autour du rap. Ça fait très longtemps que j'y pensais. Et nous, on s'est dit, pour un peu jouer le contre-coup, il nous faut une fille. Donc, on a casté pas mal de filles pour essayer de présenter le truc. Du coup, on les a castées, etc. Donc, on a fait des tests. Ça ne fonctionnait pas spécialement. Et Thomas était en stage chez nous. Donc, lui, il écrivait. Bon, bah, déjà, en off, il avait ce côté marrant, tu vois, la bonne vanne, etc. On s'est dit, vas-y, tiens, on teste avec lui, on voit si ça fonctionne. Donc, on teste et il s'avère que les tests étaient concluants.
Ouais, du coup, souvent, les meilleurs talents, ils sont déjà dans la maison.
Exactement, ils sont déjà dans la maison. Et du coup, on est parti avec lui. Et le ton, l'écriture, tout sur le JDR, aujourd'hui, c'est lui qui écrit et qui fixe le ton de l'émission. Et je me rappelle les premières émissions, les tournées, je me rappelle le jeudi soir, entre 23h et 1h du matin, on mettait peut-être 2h à tourner un épisode de 8 ou 7 minutes. Aujourd'hui, en 40 minutes, c'est pile.
Il est très, très bon.
Il fait quasiment que de l'impro. Il sait un peu les idées. Enfin, il a les idées à chaque fois. Il sait ce qu'il va dire. Ouais. Et puis après, il y va en impro, mais il est vraiment très, très fort.
Maintenant, il vaut de l'or.
Mais là, il a valu de l'or dès la première émission. Ouais. La première émission qu'on a fait avec lui, c'était un micro-trottoir où il allait faire écouter du rap hardcore à des femmes. Et le lendemain, il reçoit un mail de TF1 qui veut l'embaucher.
OK.
Alors qu'il était encore en stage chez nous.
Bah, bien joué. Mais toi, tu l'as senti au bon moment.
Exactement.
Raté. Et donc, une fois que vous avez vos émissions, etc., ok, tu as des différents programmes. Et après, comment ça s'organise? Comme un média, j'imagine, vous avez des comités éditoriaux.
C'est ça.
Comment vous organisez?
On s'inspire de la télé sur le côté programme. C'est-à-dire qu'on fixe un peu des rendez-vous. L'idée, c'est. On s'est rendu compte qu'en fixant des rendez-vous, par exemple, le samedi 14h, tout le monde sait qu'il y a le JDR. On voit sur la première heure, ça explose au niveau des stats. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de fixer des rendez-vous et d'avoir à peu près un contenu à sortir par jour. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est l'ambition qu'on a sur Bouscapé. Et après, on a un peu notre grille de programme et on poste selon cette grille.
OK. Aujourd'hui, cet épisode, il est enregistré en direct sur Twitch. Donc, merci d'ailleurs à ceux qui nous regardent en ce moment sur Twitch. C'est un truc sur lequel vous voulez aller, Bouscapé. Avant, j'aimerais bien qu'on parle des nouveaux formats parce que tu m'as parlé podcast, donc on va en parler. Et Twitch, qu'est-ce qu'il en est de live, YouTube, live, Twitch, etc.
Twitch, on en discute. On a eu des discussions là-dessus. On sait qu'il faut y arriver. On n'a pas encore trouvé le format. Là, j'ai un directeur de création qui arrive, qui va nous rejoindre au mois d'avril. Il s'appelle Franck, qui va être chargé un peu de chapeauter tout ça. Il arrive avec des nouveaux concepts qu'on va mettre en ligne sur Bouscapé.
OK, donc sur Twitch, on va voir, ou sur YouTube.
Bah là, déjà, on commence sur YouTube.
Okay.
La priorité, c'est un talk sur lequel on veut bosser.
OK, excellent.
C'est un talk, en gros, qui réunira que les gens de l'équipe. On va parler un peu de l'actu, l'actu de la sphère rap. On va se faire un peu le TPMP du rap.
OK, je vois. D'accord, très bien.
L'idée, c'est de faire un truc un peu cool et... C'est ça, c'est notre priorité. Ça.
Donc, un vrai talk show, quoi.
Ah, ouais, talk, quoi.
OK, excellent. Qui sera aussi en podcast
Pour nous, on voit ça différemment. Ouais. C'est-à-dire que le jour où on va faire un podcast, ce sera vraiment qu'un podcast. Moi, je fais dans ma vision des choses, hein, je vois... Pour moi, quand tu penses contenu vidéo, c'est un contenu vidéo. Podcast, c'est autre chose.
Bah, c'est là où il y a la culture du fondateur. Voilà. Parce que justement, donc pour t'entendre sur ce sujet de l'audio, vous êtes un média initialement d'image.
C'est ça.
Et puis là, arrive très, très fort l'audio qui revient, on va dire, hein, avec des contenus podcasts qui explosent dans tous les sens. Sur le sujet rap, culture urbaine, il y a eu pas mal de tests. Il y a eu des plantades aussi. L'équipe a essayé des trucs. Ça a foiré. Il y a des super belles réussites comme featuring. Est-ce que vous avez des projets, vous, à Bouscapé, dans cette direction-là?
Pareil, en fait, la prochaine priorité après le talk, c'est de développer vraiment les podcasts. Moi, de base, j'en écoute beaucoup. Après, je ne suis pas expert sur le sujet, de la manière dont ça se fait, etc. Mais dans l'équipe, il y en a qui sont très friands de ça et qui attendent que ça. Du coup, c'est dans les tuyaux, mais on va arriver là-dessus.
Et sur
on a déjà 2-3 formats de podcasts, je pense, qui sont assez forts. Qu'on aimerait lancer, puis on va voir.
Hein, ok. Et là-dessus, l'opportunité pour Bouscapé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'aller chercher une audience différente qui vous écoutait pas jusqu'à présent, qui connaissait pas Bouscapé en format vidéo, ou est-ce que tu penses que sur ta base d'audience aujourd'hui, tu as déjà une audience podcast ou c'est autre chose?
Bah, je pense que les jeunes, les très jeunes, je dirais entre 15 et 18 ans, je suis pas sûr que ce soit les auditeurs des podcasts, mais bon, ils vont y arriver un jour. Et l'idée, c'est vraiment d'être sur ce segment-là, parce qu'on sait clairement qu'il y a un public qui écoute. Tout à l'heure, tu parlais de l'émission featuring, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont beaucoup de succès. Et je pense que c'est important d'être là-dessus. Il y a les gens, enfin, surtout les tranches d'âge entre 24 et voire 40 ans, c'est des personnes qui écoutent beaucoup de podcasts, soit en voiture, soit dans les transports. Et je pense que c'est encore de la niche pour moi. C'est pas là-dessus que ça va exploser, etc. Mais en tout cas, c'est un contenu d'influence qui, je pense, est important.
Ouais. Alors justement, je vais juste repiquer à nouveau sur le sujet du média incarné, parce que là, on a parlé tout à l'heure des personnages, hein, on a parlé de Sarah, on a parlé de Thomas, mais j'aimerais bien qu'on parle d'Amad, de Bouscapé. Il y a aussi toi qui maintenant commence à sérieusement incarner la marque Bouscapé. Tu nous l'as dit entre les lignes que c'était pas un truc au départ où vous étiez forcément très à l'aise, et pourtant, bah maintenant, ça y est, tu es de plus en plus visible. T'animes une séquence qui s'appelle L'œil de la rédac. Je trouve ça super bien. J'ai découvert sur LinkedIn ce qui est arrivé comme un ovni dans mon feed. Donc, merci pour ça. C'est vraiment canon. C'est très intéressant parce que tu donnes des chiffres précis sur les audiences. Tu parles de façon super transparente des partenariats de marque, etc. Ce qui est intéressant, c'est que même ces contenus, je suis allé voir sur YouTube, vous les diffusez sur YouTube, il y a pas mal de monde qui regarde. Donc, ça veut dire que dans ton audience, tu as des gens qui sont intéressés par les coulisses de l'aventure entrepreneuriale de Bouscapé. Pourquoi c'est important de construire sa marque en public quand on est Bouscapé?
Déjà, enfin, je reviens rapidement sur le fait que ça fonctionne sur YouTube. C'est déjà ce qu'il faut savoir, c'est le public rap, c'est un public qui aime beaucoup les coulisses, qui sont intéressés par tout ce qui se passe un peu en coulisses, les cuisines, etc. Donc, c'est pour ça que c'est un contenu qui fonctionne aussi sur YouTube. Et le contenu, en fait, il est arrivé, je crois, 2018-2019. On avait fait une année 2017 incroyable. On avait lancé pas mal de contenu, ça avait bien fonctionné. Au niveau des chiffres, tout avait explosé. Même au niveau des chiffres d'affaires, je crois qu'on avait fait x3, donc c'était plutôt cool. Et Flo, qui est une personne avec qui je bosse, s'est dit, ça y est, c'est le moment. En fait, aujourd'hui, il faut qu'on commence à communiquer sur ce qu'on fait. C'est des choses qui vont déjà nous permettre d'attirer des talents. Et en plus de ça, les marques, elles vont voir à quel point on est puissant. Donc, c'est là qu'on a créé le programme L'œil de la rédac. Et qu'on a décidé tous les mois de parler de nos chiffres, etc., des problèmes qu'on peut rencontrer, et puis ça intéresse. Et puis, on a des deals qui sont venus grâce à ce contenu-là. Donc, en vrai, c'est tout bénef.
Ouais, tu penses que ça sert l'objectif? C'était la question, c'était l'objectif. Est-ce que ça sert? Bah, déjà, ça sert peut-être pour toi, peut-être pour documenter, tu vois, l'aventure. Mais hormis ça, est-ce que ça sert dans tes relations avec les marques? Est-ce que ça sert dans le lien que ça permet de continuer à tisser avec tes audiences? J'ai l'impression qu'en fait, ça contribue aussi à créer un lien additionnel avec tes audiences, en fait.
Franchement, c'est important et ça crée le lien relationnel, en fait, que tu peux avoir avec les différents acteurs du milieu. Aujourd'hui, quand je rencontre une nouvelle marque ou quand je rencontre un nouveau partenaire et qui me voit, il m'a déjà vu dans l'œil de la rédac, donc il sait ce que je représente, il sait ce que je suis, il connaît Bouscapé, il sait à peu près le truc. Et puis, il y a même des gens dehors qui m'appellent l'œil de la rédac, qui m'appellent pas dans ton prénom. Il y a l'œil de la rédac. Donc, non, franchement, c'est un contenu plutôt cool qui se fait pas trop.
Ouais, carrément. Moi, je vous trouve super en avance là-dessus.
Je sais pas trop. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'être le plus transparent possible. Et ça plaît, tu vois. Donc, tant mieux. Ouais. Et puis ça a fait que renforcer la marque et le lien avec la communauté.
Ouais. Et puis, puisque tu parlais de marque tout à l'heure, c'est votre business model, hein, ça ?
Bien sûr.
Donc des deals de marque. C'est quoi du coup le rapport qu'entretient Bouscapé avec les marques ? Vous dites, je crois que c'est sur votre site, je sais pas où j'ai vu ça, que vous proposez du brand content, hein, c'est ça ?
C'est ça.
C'est quoi le type de marque aujourd'hui qui fait appel à Bouscapé ?
Alors nous, en fait, au niveau business, c'est un peu divisé en deux parties. Donc, historiquement, on bosse avec les maisons de disques. Donc, dès qu'il y a un projet qui sort, etc., ils prennent de la pub ou alors des contenus sur les réseaux sociaux. On fait des posts sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, on a la partie brand, où on a un peu l'activité d'une agence. Et puis, l'idée, c'est de... Les marques avec lesquelles on bosse, soit on fait du placement de produits sur nos différents contenus qui existent déjà, soit on crée un contenu pour la marque. Et la force aujourd'hui de Bouscapé, c'est d'avoir déjà son agence en interne, même si elle n'est pas déclarée. On travaille un peu comme une agence en interne. Mais la force de Bouscapé, surtout, c'est son réseau de diffusion, en fait. C'est que là où les marques vont aller voir les agences, elles vont bosser, elles vont essayer de trouver des plateformes pour diffuser. Nous, on a déjà la plateforme.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, vous êtes nos premiers concurrents, les médias. Nous, en tant qu'agence, c'est clair, vous êtes en première ligne. Parce qu'en fait, effectivement, le deal que vous faites avec les marques, c'est de dire, on peut te produire du contenu, mais en plus de ça, surtout, on a déjà une audience qu'on connaît par cœur, etc.
C'est ça. Quand on a bossé avec Oasis, c'était en 2017, je crois. Je suis pas très fort sur les dates, mais je crois que c'est 2017. Ils avaient fait toute une campagne, en gros, qui visait un peu les quartiers populaires. Et eux, leur agence, c'est Marcel. Ils savaient pas comment toucher cette population. Donc, ils sont venus nous voir, Marcel, parce qu'il y avait des gens qui bossaient dans l'agence qui connaissaient très bien le média. On a discuté, ils nous ont donné un peu la ligne directrice, en tout cas, de la campagne. Et on a réfléchi ensemble, en fait, à un contenu qu'on a créé sur YouTube et qui a explosé.
OK. Et du coup, moi, j'ai une autre question, c'est est-ce qu'il vous arrive, à l'inverse, de mettre à profit votre savoir-faire, plutôt, tu vois, de création de contenu, sans mettre à profit vos audiences ? Est-ce que là, vous intervenez parfois exclusivement sur de la création de contenu en disant, moi, j'ai un studio, j'ai des mecs qui savent créer, j'ai du matos, j'ai des top monteurs, des top motion designers, je peux te faire ça, tu vois ? Ou alors, est-ce que ça va toujours avec l'audience ?
On a de plus en plus de demandes par rapport à ça. Mais pour être honnête, financièrement, c'est pas super intéressant pour nous. On l'a déjà fait, notamment pour Aya Nakamura, qui en gros, avant sa tournée des Zénith, elle avait un partenariat avec Instagram qui sont venus nous voir pour créer une web-série autour d'Aya qui serait diffusée sur IGTV. C'était au moment du lancement d'IGTV. Et nous, on a produit ce contenu-là qu'on n'a pas posté sur Bouscapé, qu'on a posté uniquement sur
okay,
d'Aya.
Okay.
Donc ça a bien fonctionné. Mais... la création de contenu pur qu'on fait comme ça en mode marque blanche, c'est pas là-dessus où on gagne le plus d'argent.
Ouais, c'est vraiment quand l'audience elle est
quand
impliquée.
Quand l'audience est impliquée, parce que la puissance de diffusion de Bouscapé, c'est vraiment notre force aujourd'hui. Et puis, on sait que quand c'est un contenu qui est produit par Bouscapé avec la patte Bouscapé et qui est diffusé en plus sur nos réseaux, on sait tout de suite que ça fonctionne.
Et est-ce qu'il vous arrive d'avoir des partenaires en marque qui soient exclusivement en dark post, c'est-à-dire pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas dans la ligne éditoriale, ce n'est pas, mais par contre, j'utilise les audiences en format publicitaire exclusivement, et j'ai une marque qui paye ses formats publicitaires, donc je capitalise sur l'audience sans que pour autant ça vienne prendre de la place dans la grille éditoriale. Est-ce que c'est des choses que vous êtes amené à faire ?
Ça aussi, on le fait pas du tout. C'est un choix.
Ouais, ouais.
On le fait pas. Ouais.
Donc, vous restez au plus proche de l'éditorial, au plus proche de l'audience.
Ouais. Ouais. Nous, aujourd'hui, tu vois, entre contenu de marque et édito, je trouve que la frontière, elle est vraiment mince. Et nous, on essaye, en tout cas, de proposer déjà, quand on bosse avec les marques, c'est toujours des contenus, ou en tout cas des marques qui sont en adéquation avec nos contenus. Ça, c'est très important.
Comment tu sais ça ? À quel moment tu sais, genre, cette marque-là, je sais que... En fait, la question que j'ai sous-jacente, c'est que nous, on accompagne des marques. Et parfois, les marques, elles embarquent avec elles des casseroles. Il y a des trucs qui leur tombent dessus, etc. Et d'un coup, tu vois, il y a... Puis en plus, on est dans une époque de cancel culture qui est vénère. Donc, d'un coup, tu as une marque qui peut être effacée. Et pour un média, s'impliquer... Et d'ailleurs, il y en a qui se sont retrouvés dans des situations compliquées comme ça, sur des sponsorings de programmes... Parce qu'ils embarquaient avec leur réputation d'une marque. Comment toi, tu peux juger en tant que média ? À quel moment tu sais ? Tu vois, quelle est l'intuition que tu as ?
Bah nous, déjà, c'est quelle histoire la marque veut raconter ? Est-ce que cette histoire, elle va parler à notre communauté ou pas ? C'est déjà la première question qu'on se pose. Et est-ce que ça va dans l'ADN de Bouscapé ? Si jamais ça arrive à cocher ces cases-là et qu'on arrive en plus, nous, on demande toujours à être impliqué dans le processus de création. C'est pas tu viens, tu crées ton contenu, tu nous demandes de diffuser. Nous, il faut qu'on crée le contenu ensemble ou tout seul, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on soit impliqué là-dessus pour être sûr de ce qu'on va proposer à nos internautes, à notre communauté. Là, par exemple, j'ai un exemple récent, c'est Mentos qui avait fait une campagne où, en gros, c'était autour de l'univers des clashs, mais c'était des clashs fun. En gros, parce que j'ai mangé un Mentos, moi, je vais te clasher, mais je vais te donner que des trucs positifs sur toi. Donc, ils nous ont envoyé la vidéo en nous demandant si jamais on pouvait la poster sur nos réseaux, moyennant finance, etc. Mais c'est un truc qu'on a refusé. Parce que déjà, je trouvais que... Excusez-nous, mais la vidéo, elle n'était pas...
Elle était pétée, voilà, t'as qu'à le dire.
Voilà, ouais. L'ADN n'était pas folle. Ça ne s'inscrivait pas, en tout cas, ouais. dans l'ADN de Bouscapé. C'est des choses qu'on a refusées. Ça nous arrive de refuser souvent des deals qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'on fait. Des deals, des fois, importants. Mais je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que la marque Bouscapé est reconnue. Et l'authenticité qu'on a aujourd'hui, on ne la perd pas aussi pour ça. Là, pas du gain. Oui, tout le monde veut faire de l'argent, tout le monde veut gagner de l'argent, mais pas à n'importe quel prix. C'est ouais. important.
Allez, je profite qu'on soit sur Twitch parce que j'ai des questions. Il y a plein de monde sur Twitch qui a des questions pour toi. On a une question de Adjan qui d'habitude est derrière le micro, tu vois. Donc je pense qu'il est quelque part par là dans les studios, dans les bureaux, en train d'écouter. Maintenant que les rappeurs ont leur propre média pour parler à leurs fans avec les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont peur que les rappeurs n'aient plus besoin d'eux ? Est-ce que tu as peur, toi, Bouscapé, qu'à un moment donné, le lien super étroit que tu as avec l'écosystème rap, vous soyez plus aussi incontournable, tu vois ?
Non, parce que aujourd'hui, un rappeur, oui, avec leurs réseaux sociaux aujourd'hui qui explosent, on peut dire qu'ils ont leurs propres médias, mais leurs propres médias qui parlent à une communauté, entre guillemets, limitée, leur communauté à eux. Aujourd'hui, s'ils veulent toucher un public beaucoup plus large, bah forcément qu'ils vont devoir composer avec nous et d'autres médias, quoi. Et aujourd'hui, les rappeurs même les plus grands rappeurs qui ont des communautés les plus importantes, ils continuent de passer par nous. On était partis au Congo faire un docu sur Damso. Bon, aujourd'hui, Damso, c'est tellement gros qu'on pourrait se dire il a besoin de personne, quoi. Bah, il nous a quand même appelé pour qu'on vienne faire le docu et ça a explosé, ça lui a profité, ça nous a profité. Ouais.
Et sur ces productions de contenu comme ça, long format, c'est quoi le modèle, quelle est la part de kiff et quelle est la part de modèle économique? Tu vois, quand vous faites Attic, là, ce que vous êtes en train de sortir, là, qui cartonne, est-ce que vous avez, le modèle, il est exclusivement sur le publicitaire issu de YouTube? Qu'est-ce qui se joue exactement? Est-ce que ça engage beaucoup de frais, hein, quand même, ouais, j'imagine? On parle de 20 minutes de court-métrage. Comment ça marche, en fait?
Bah, pour l'instant, on produit tout en interne. Donc oui, il y a les royalties sur YouTube, etc. Mais ouais. C'est pas ça aujourd'hui qui va nous permettre de rentabiliser là-dessus. Nous, on pense plutôt sur la... En fait, quand on fait des contenus comme le docu sur Attic ou Damso, c'est des contenus vitrines, entre guillemets. Alors même si on gagne pas de l'argent directement là-dessus, on sait que ça va attirer des annonceurs et on sait qu'à terme, on va réussir à les rentabiliser en s'affiliant à une marque, etc., qui va venir là déjà sur le prochain. On est déjà en train de discuter avec des marques sur le prochain docu qu'on va faire. Donc ça, c'est des docus qui ont une telle résonance. C'est des programmes qui ont une telle résonance aujourd'hui qui fait que c'est difficile de jauger quelles sont les retombées. Mais on les a en tout cas, les retombées.
Ouais, c'est un investissement de communication.
C'est un investissement de communication plutôt qu'autre chose.
Ouais, ok, compris. Écoute, sujet passionnant. Je pense qu'on pourrait parler des heures ensemble de tout ça, de social media. Allez, une petite... je regarde du côté de Twitch. Il y a plein de commentaires. On les gardera après cet épisode. Un énorme merci, Ahmad. C'est super, super intéressant. On a hâte de voir les nouveaux projets de Bouscapé. On a hâte de voir si bientôt on va voir un documentaire Bouscapé sur Netflix, peut-être, non? Ça fait partie des projets?
Bah, pourquoi pas. Sur Attic, il y a eu des discussions avec une chaîne de télé qui voulait récupérer le docu, ça s'est pas fait, mais je sais qu'un jour ou l'autre, ils viendront à nous.
Il est comme ça. Et alors j'ai lu une interview d'Ahmad récemment qui disait parce que je l'ai vu dans ses yeux tout à l'heure quand j'ai cité tout à l'heure la concurrence, quand j'ai parlé de Combini et de Brut, il m'a regardé genre parce que j'ai lu une interview récemment où il disait non mais c'est pas eux qui vont nous racheter, c'est nous qui allons les racheter. Il est comme ça, il a les dents. Ahmad, un grand merci pour ce moment, super intéressant, merci de nous avoir donné tout ça, c'était passionnant. Bon retour sur Paris.
Merci beaucoup.
Voilà, et puis je te dis à très vite. Pour ceux qui nous écoutent, eh bien, n'hésitez pas à partager cet épisode et puis à nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux @supernatif. Bouscapé, bah, on peut les trouver partout, c'est facile. Instagram, YouTube,
Facebook, voilà. TikTok, bientôt Twitch.
Voilà, et puis Ahmad, vous pouvez aussi le retrouver à titre perso sur LinkedIn, compte très cool à suivre. Je peux inviter les gens, non? Tu acceptes les invités?
J'accepte tout le monde.
Voilà, il accepte tout le monde. Allez parler avec Ahmad. Dites-lui bonjour de notre part. Merci à vous tous. Très très belle journée et puis on vous donne rendez-vous dès demain. Salut à tous.
Merci, à bientôt.
Ciao.
Ciao.
Merci Hamad, c'était super. Twitch les amis, merci. On va pas retenir Milan Hamad parce qu'il est en bonne compagnie et les magasins vont bientôt fermer. Donc merci. Voilà, il y a du monde. Oui, c'était imprévu comme ça. On est tombé Hamad, c'était prévu qu'il vienne faire un podcast. Puis on a demandé gentiment s'il était d'accord pour qu'on se retrouve sur Twitch. Donc voilà, on a plein de gens qui nous disent trop bien, superbe, passionnant, captivant, etc. Donc merci. On se fera un plaisir de répondre. Voilà. Et puis partagez cet épisode d'ici 2-3 jours. Je pense qu'il sera en ligne. Merci à tous. Salut. Merci encore, Hamad.
Merci.